Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, on parle en ce moment de Nostradamus. Alors, je préciserai que c'est Jean-Jacques de Fombrune qui écrivit plusieurs livres à son sujet dans les années 1980, qui le remit un peu au goût du jour. Alors, ses ouvrages donnèrent lieu à des émissions de télévision épiques à l'époque, dans les années 80. Mais c'est le docteur, en réalité son père, c'est le docteur Max Piger de Gurbert, qui est né à Castres le 6 février 1900, qui est à l'origine de toute cette polémique. Alors son père, donc à Max, et le grand-père de Jean-Charles de Fombrune, était juge de paix et il ouvre une étude d'avoué à Bergerac, où le jeune Max suit des études secondaires au collège Henri IV, puis poursuit ses études à Bordeaux, où il est licencié en droit. Mais manifestant un goût prononcé pour la médecine, il passera un diplôme en spécialité dermatovénérologie. Et en 1931, il épouse Marie-Thérèse Fontenot à Saint-Loubès, près de Libourne, et s'installe en qualité de médecin à la Bachellerie, puis à Sarlat, dans un ancien hôtel particulier à Haut-la-Ruffel-Nord. Je ne sais pas si vous connaissez Sarlat, mais c'est pas très loin de la sous-préfecture. Voilà, alors, donc Max Piger de Gurbert, il est membre de la Société de Préhistoire Française, et dans le Périgord illustré, avant les centuries, entame une controverse concernant les cristallisations de la grotte du Grand Roc au Zaïzi. Alors, Jean Maury, conservateur de la station de Longeribas, donc où se trouve la grotte du Grand Roc, découvreur de la grotte, de cette fameuse grotte, va lui répondre, puis Henri Larouy, docteur Escience, va donner son opinion, ainsi qu'Auguste Lumière de Lyon, correspondant de l'Institut de l'Académie de médecine et créateur du cinématographe avec son frère Louis. Alors, ces articles paraîtront dans le Périgord illustré de novembre 1932 à mars 1933, et seront réunis dans une plaquette qui connaîtra plusieurs éditions. Alors, celle que je possède, c'est la quatrième. Elle est sans date, mais elle est publiée par l'imprimerie de la Vézère, sans doute en 1937 ou 1938, parce qu'elle fait, comment je pourrais dire, référence à un article de 1936, de fin 1936, voilà. Alors, un avant-propos signé du commandant Hugla, qui est directeur du Périgord illustré, nous informe que c'est à la demande de Jean Maury que cette plaquette a été éditée. Alors voici cet avant-propos. En septembre 1932, paraissait dans le Périgord illustré une étude signée Piger de Gurbert et s'appliquant aux cristallisations de la grotte du Grand Roc, découverte depuis quelques années seulement. Cette étude devait être le prélude d'une controverse provoquée par Jean Maury, conservateur de la station préhistorique de Longeribas et l'un des auteurs de la découverte, controverse à laquelle prit part également M. Larouy, comme l'on disait, docteur en sciences, et Auguste Lumière de Lyon, correspondant à l'Institut et de l'Académie de médecine. M. Maury, qui ne connaissait aucune des personnalités susnommées, n'a jamais eu l'idée dans ses réponses de se poser en spécialiste ni savant, mais simplement de refléter le modeste savoir qu'il pouvait avoir acquis, tant par sa parfaite connaissance des moindres recoins de sa grotte, que par les multiples conversations qu'il avait eues avec d'éminents visiteurs venus de tous les pays. Cette controverse où chacun a exprimé ses vues avec logique et sincérité paraît n'avoir nullement dénoué l'énigme du Grand Roc, et nous applaudissons au geste de M. Maury qui a tenu à grouper dans cette petite brochure l'ensemble de la polémique parue pour qu'elle puisse servir de témoignage vécu à ceux qui, en notre temps, dans leurs travaux scientifiques, pourront en faire état. Alors, cet avant-propos, comme je disais, est signé du commandant Hugla, directeur du Périgord illustré. Alors, ces articles ont paru dans les numéros 10, 12, 13, 14, 15 et 16 novembre 1932 à mars 1933. Alors pour rentrer dans la polémique, je donnerai aucun jugement là-dessus. Je connais la grotte du Grand Roc, mais j'ai visité il y a quand même assez longtemps. Alors voici ce que nous dit le docteur Piger de Gurbert dans un article publié « Études cristallographiques sur la grotte du Grand Roc à Longeribas ». Voilà, alors, donc, la polémique vient de là. Il y a quelques photos, il y a quelques schémas, et il y a une photo de la fameuse croix qui, je crois, a été cassée il y a quelques temps. Alors, voici ce que nous dit, donc, le docteur Pichard de Gurbert, qui était membre, comme je dis, de la Société française de préhistoire. Alors, la grotte du Grand Roc, que je ne décrirai pas, puisqu'elle est aujourd'hui universellement connue, se distingue par l'étonnante floraison de cristaux qui semble avoir végété sur ses parois. Je ne risque pas tellement de me tromper si je suppose que parmi les visiteurs nombreux qui s'y succèdent annuellement, il est peu de minéralogistes ou de physiciens avertis. C'est à eux, touristes moyens, que je dédie et adresse ce bref aperçu. Beaucoup se seront donc demandé par quel sortilège la matière minérale c'était ainsi animé à la faveur du silence et de l'homme millénaire qui régnait au cœur même d'une falaise déjà célèbre. Et si rien ne rappelle en effet les formations calcaires que l'on observe dans d'autres cavernes, du moins les stalactites et les stalagmites, si elles ne sont pas absentes, sont repoussées à l'arrière-plan par des cristallisations plus riches de terre, parce que plus rares en apparence, paradoxale. On sait que le carbonate de calcium, insoluble dans l'eau, est soluble dans une eau chargée d'acide carbonique. Une pareille dissolution exposée à l'air perd son gaz et dépose le carbonate de chaux devenu soluble. Telles sont les fontaines pétrifiantes dans lesquelles les objets que l'on plonge se recouvrent d'une couche de carbonate. Telles sont aussi les stalactites et les stalagmites. L'eau chargée d'anhydride carbonique et de calcaire suintant lentement et venant tomber goutte à goutte de la voûte d'une grotte formant des cônes descendants parce que ce sel a été précipité par suite du dégagement du gaz sur le sol à l'endroit où viennent tomber ces gouttes et forment de petits monticules de calcaire produits de même et qui s'élèvent peu à peu jusqu'à rencontrer le cône supérieur descendant et former une colonne complète. Voilà. Alors c'est un peu technique, hein, voilà, je m'excuse en quelque sorte, mais bon, c'est les propos du docteur Pichard de Gurbert à l'époque. Alors, il continue ainsi, si on ajoute qu'au moins pour la stalactite, la première précipitation de calcaire se dépose à la surface de la goutte initiale pour des raisons de tension superficielle, il deviendra aisé de comprendre que les trois particularité fondamentale caractérise ces formations. Alors, je vous laisse juge de ces propos. Alors, il continue. Alors, premièrement, leur direction est verticale, par obéissance, la pesanteur. Leur centre est le siège d'une cavité cylindrique longitudinale qui répond au diamètre de la goutte d'eau primitive. Le calcaire qui les constitue est cristallisé d'une façon confuse quand il n'est pas amorphe, ce qui le rend opaque à la lumière. Au Grand Roc, les caractères sont tout différents et aucune comparaison, sinon le contraste, n'est permise avec des stalactites ou stalagmites. En effet, premièrement, leur direction emprunte les trois plans de l'espace qui n'est pas toujours en ligne droite. Leur centre n'est occupé par aucune cavité. Le calcaire qui les constitue, cristallisé d'une façon parfaite et orienté, ce qui le rend translucide. Il s'agit d'une cristallisation active organisée sous l'une des formes pures du carbonate de calcium et le prisme orthobique. Voilà, alors, comme je disais tout à l'heure, ben, je vous laisse un peu juge de tout cela, mais je vais quand même vous donner la suite de cet article qui lancera quand même une polémique. Si je dis active, cela ne signifie pas que la cristallisation se développe en poussant comme une plante douée de propriétés spéciales à la vie. Notre grand savant, M. Auguste Lumière, a montré que l'état colloïdal constitue la vie. Seule cette forme chimique de la lumière est susceptible de se prêter avec assez de souplesse aux transformations et aux élaborations que nécessite le puissant creuset de la cellule vivante. La cristallisation est à l'opposé de ce système, qu'elle représente dans l'ordre physio-chimique la fixité absolue dans la forme et dans l'espèce. Je dis active par opposition aux cristallisations confuses, c'est-à-dire non orientées, lorsqu'un sel se trouve à un certain degré de saturation dans un solvant. Il cristallise et de telle manière que dès la production d'un premier cristal, les autres cristaux se développent à partir de lui et dans le même sens que lui. Si quelque hasard veut pendant ce temps qu'un cristal prenne naissance dans une direction différente, il pourra devenir l'origine d'une autre masse cristallogène, etc. C'est le phénomène de cristallophilie que nous pouvons transcrire par le cristal, appelle le cristal. C'est peut-être du cristal de roche. Alors, notez que c'est l'état de sursaturation qui domine et conditionne le fait. Une semblable cristallisation se développe en majeure partie et de préférence du côté du bout libre, accroissement progressif de proche en proche. Les récentes découvertes sur la constitution de la matière ont établi que ces corps ont pour caractère des groupements électroniques de forme particulière et chacun est, qui détermine des champs magnétiques doués de lignes de force morphologiquement déterminées. C'est le sens de ces lignes de force qui oriente toute cristallisation à la faveur des charges électriques de l'atome. Alors, je vous avais dit que c'était quand même un sujet un peu technique. Bon, alors, je vais quand même donner la fin de cet article, mais ceci nous entraîne trop loin. Je me borne à ajouter que des cristaux, lorsqu'ils sont orientés dans le même sens, ne se prêtent pas, comme dans le cas contraire, à une réfraction régulière qui brise à l'infini le rayon lumineux jusqu'à l'absorber entièrement et sont donc translucides. L'examen au microscope d'un fragment de cristal de roche du grand roc montre bien l'orientation longitudinale des prismes orthonormiques. Voilà, du carbonate de calcium, par endroit un cristal aberrant a été à l'origine d'une coudure de la branche principale ou le point de départ d'une branche secondaire. Avant de terminer, j'attire l'attention sur le point que seules les cristallisations développées de bas en haut ont pu dépasser une certaine dimension, c'est que l'apport de la solution saturée de calcaire est fonction de la capillarité et qu'il arrive un moment où ce phénomène est annihilé par la pesanteur. C'est aussi l'humidité constante entretenue par la capillarité qui a réalisé les formes lisses que nous observons. Quant aux bancs d'argile sur lesquels les cristallisations sont électivement développées, à eux revient le simple mais indispensable mérite d'entretenir et d'apporter la solution mère saturée de carbonate de calcium. Je souhaite que ces lignes, bien que n'étant pas d'un intérêt descriptif, aient partant plus aisé en ramenant vers le grand roc d'anciens fidèles qui attirent des visiteurs nouveaux et tous ceux auxquels on doit l'esprit perspicace et des recherches patientes de nos hardis spélucologues. Voilà. Alors, c'est signé, comme j'avais dit, le docteur Pigard de Gurbert, et il y a, bien sûr, quelques dessins, type de branche cristalline du grand roc, ou des fragments de cristal du grand roc, vus par le microscope et mettant en évidence l'orientation du rhomboèdre de calcaire. Alors, bon, pour moi, je ne veux pas dire des brumes, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, je disais au début que donc le docteur Pigard de Gurbert était un spécialiste des maladies de la peau en quelque sorte. Et enfin, ma mère m'y avait amené parce que ben, comme tous les enfants, je devais avoir quelques problèmes de ce côté-là. Et j'avoue que je n'ai aucun souvenir de cette rencontre que j'ai pu faire du docteur Pigard de Gurbert. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors, bon, on va voir un peu la semaine prochaine, Jean-Maury, qui va dans un article qui va intituler l'énigme des cristallisations de la grotte du Grand Roc. Voilà. Alors, on peut toujours aller visiter sur les vacances de Pâques. Et donc, vous pouvez toujours aller visiter cette grotte qui se trouve aux Aizy. Et puis, ben, ma foi, pour moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques avec, ben, mettons quand même, un temps un peu plus chaud. Voilà, et donc, dans 15 jours, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.